Bonjour chers auditeurs, au micro Paul Ouzi Meyerson qui a le plaisir de vous présenter Chronique pour la paix, une nouvelle émission sur Radio Shalom. Aujourd'hui, nous allons parler d'un rapport d'Amnesty International qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et suscité de nombreuses réactions négatives. Il s'agit du rapport intitulé « L'apartheid israélien envers les Palestiniens ». Les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne ont déjà exprimé leur rejet de ce travail orienté et partisan. La majorité des spécialistes du Moyen-Orient s'entendent pour le qualifier de calomnieux. Mais comme dit l'adage, calomnier, il en restera toujours quelque chose. C'est même un principe de propagande. Aussi, nous avons voulu demander à ceux qui militent pour la paix, qui promeuvent depuis longtemps la solution « deux peuples pour deux États », si la publication du rapport d'Amnesty International allait faciliter leur travail politique. Ceux qui aspirent à voir juifs et palestiniens souverains et vivant en bonne intelligence sont-ils aidés par les conclusions de ce rapport? C'est à Alain Rosenkier qui va répondre à nos questions sur ce sujet. C'est Alain Rosenkier est sociologue, il est président des Amis de la paix maintenant depuis de nombreuses années. Il est également membre du bureau exécutif de l'Organisation européenne pour la paix, JICOL. Bonjour Alain Rosenkier.
Bonjour Ouzi.
Alors, bienvenue sur notre antenne. Pour nos auditeurs qui ne nous connaîtraient pas, pouvez-vous brièvement expliquer quels sont les objectifs de la paix maintenant et de JICOL, et puis quelques indications sur ces deux organisations avant qu'on commence directement les questions?
Bon, ben, pour être simple, je dirais que la paix maintenant regroupe des gens en France qui sont solidaires du mouvement israélien Shalom Arshav, Peace Now, la paix maintenant, et qui se chargent de faire connaître les positions de ce mouvement et plus largement du camp de la paix israélien pour une solution politique au conflit israélo-palestinien basée, pour faire simple, sur le principe de deux États pour deux peuples. JICOL est une association plus récente qui et veut exprimer le point de vue des Juifs de la diaspora concernés par ce problème et qui promeut aussi une solution politique sur la base également de deux peuples, deux États, comme vous l'avez dit.
Très bien. Alors Alain Rosenkier, bien entendu, vous avez pris connaissance du rapport d'Amnesty, apartheid israélien envers les Palestiniens. Vous lui avez même consacré un éditorial que j'ai lu.
Bonne lecture.
Comment jugez-vous ce rapport? Est-ce qu'il peut contribuer à la justice et à la paix dans le conflit Israël-Palestine?
Alors, je pense qu'au départ, il faut faire de l'ordre, je dirais. Il y a deux choses. Il y a, d'une part, le rapport d'Amnesty International, et puis, d'autre part, il y a la réalité que ce rapport traite, s'efforce de décrire, et on reviendra sur ce rapport. Il est donc important, en tous les cas, de ne pas jeter l'eau du bain, de ne pas profiter du brouhaha et du bruit que ce rapport suscite pour oublier la réalité à laquelle ce rapport est consacré, réalité qui est caractérisée par l'occupation d'un peuple par un autre, par le développement de la colonisation, par des discriminations, occupation, colonisation, discrimination, qui remettent en danger existentiel le devenir même de l'État d'Israël, tel que ses pères fondateurs le voulaient, c'est-à-dire un État juif et démocratique, j'insiste sur le « et non pas « ou », c'est-à-dire un État qui soit simultanément juif et démocratique et non pas l'un ou l'autre. Et donc cette réalité, elle ne doit pas être occultée par toutes les discussions et les polémiques de ce rapport, et là-dessus, nous avons le camp de la paix en général, et ceux qui sont partisans d'une solution politique ont une position très claire de condamnation, de réprobation et une réalité donc qu'il convient de ne pas édulcorer. Ensuite, il y a le rapport lui-même. Alors sur le rapport, je dirais que c'est un rapport erroné, partiellement erroné en tous les cas, un rapport malveillant et au final un rapport contre-productif. On pourra revenir, si vous le voulez, sur ces trois dimensions.
Alors, revenons au rapport contre-productif. Expliquez-nous pourquoi il est contre-productif. Mais juste, je voudrais préciser quand même, parce que je l'ai lu ce rapport, j'ai lu les 260 pages, plus la page en français distribuée au bureau exécutif français. C'est un rapport taillé sur mesure pour Israël. C'est un rapport qui n'a rien à voir avec les autres rapports qui sont faits par Amnesty International sur d'autres sujets. J'ai regardé les rapports, par exemple, j'ai pris trois rapports sur les Ouïghours en Chine, sur ce qui se passe en Birmanie et sur ce qui se passe en Syrie. Personne ne refait l'histoire de la jeunesse de ces pays, car le rapport d'Amnesty International commence à dire, et là je cite, c'est pour nos auditeurs qui savent un peu de quoi on parle, voilà, je vais citer... L'ensemble du régime de loi politique et pratique décrit par Amnesty International, c'est eux qui écrivent, hein, démontre qu'Israël a instauré et perpétué un régime institutionnalisé d'oppression et de domination contre la population palestinienne mis en œuvre au profit de la population juive israélienne. Un système d'apartheid sur tous les territoires, hein, pas seulement le territoire occupé, Israël, où le pays exerce un contrôle sur la vie des Palestiniens depuis 1948.
Tout à fait.
Okay, c'est pas un rapport sur ce qui se passe dans les territoires occupés, et notamment dans les zones B et C.
Pas uniquement, oui.
Amnesty International conclut que l'État d'Israël considère et traite la population, je cite toujours, hein, palestinienne, comme un groupe racial. Groupe racial, c'est pas une affaire politique. Non-juifs inférieurs. Démanteler ce cruel système d'apartheid est essentiel, puisqu'il est systémique, on démantèle l'État aussi, est essentiel pour les millions de Palestiniens qui vivent aujourd'hui en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, ainsi que pour le retour des réfugiés palestiniens. Est-ce que ce n'est pas de la radicalité antisioniste, hein ?
C'est un rapport qui est antisioniste, et c'est en ce sens-là où il est contre-productif. On a le droit, effectivement, d'être antisioniste si on veut l'être. Ceci étant, ce rapport est contre-productif dans la mesure où, au lieu d'attirer l'attention sur les méfaits de l'occupation et sur les conditions de vie des Palestiniens, qui sont des conditions de vie particulièrement difficiles, du fait des discriminations de l'occupation, il y a une discussion sur est-ce que c'est de l'apartheid ou est-ce que c'est pas de l'apartheid. Et donc ce rapport, plutôt que d'éclairer les choses, brouille tout par un nuage de fumée et déplace la discussion. Si effectivement il s'agit de convaincre en particulier les Israéliens et plus largement les populations, qu'il y a un problème et qu'il faut résoudre ce problème, ce rapport occulte cette discussion. Enfin, elle ne l'occulte pas, elle provoque des réactions telles qu'en fait, on discute d'autre chose et non pas de ce à quoi on devrait prêter attention et qui est également dénoncé par le camp de la paix israélien.
D'accord. Vous avez suivi... Oui, je vous en prie.
Oui. Donc, effectivement, vous avez soulevé un des points importants de ce rapport qui montre effectivement le parti pris et le danger qu'il véhicule dans la mesure où, effectivement, il s'agit d'une remise en cause de la légitimité de l'État d'Israël, puisque non seulement on repart de 1948, mais si effectivement on part de 1948 et dès l'origine, il y avait apartheid, il y avait ségrégation à l'égard des Palestiniens. Ça veut dire que originellement, Israël est un État raciste, un État d'apartheid, et donc, bien entendu, il n'a pas le droit d'exister. Et finalement, le message subliminal que véhicule ce rapport, qu'il fait passer, en créant une connexion, une proximité entre, d'une part, l'Afrique du Sud et Israël. Alors évidemment, l'Afrique du Sud, tout le monde connaît, le premier réflexe, c'est de rejeter cet État, ce type de régime. Alors effectivement, Amnesty est suffisamment intelligent pour dire par la suite, oui, que L'apartheid fait tout de suite penser à l'Afrique du Sud, mais ça va bien au-delà et qu'on peut parler de l'apartheid sans parler de l'Afrique du Sud.
Il le dit mais une fois au début.
Il le dit au début. Et donc, mais à partir du moment où, d'une part, ce lien entre Israël et Afrique du Sud est créé, après, on peut en prendre ses distances de façon très, très soft. Le lien reste et ce phénomène de rejet qui est provoqué par cette association, bien entendu, perdure. Et puis, d'autre part, il y a la dimension raciale que vous mentionnez. Alors, là aussi, on parle de dimension raciale, et puis après, on dit, oui, mais en fait, ça peut être aussi une oppression nationale, ça peut être aussi une discrimination. Raciale, ce n'est pas simplement des races, ça peut être aussi l'origine ethnique. C'est-à-dire que le thème est dissous dans quelque chose de très
général,
une espèce de mélasse, une espèce d'auberge espagnole. On peut mettre ce qu'on veut, finalement, dans cette dimension raciale. Mais là aussi, le terme a été dit dès le départ. On a associé Israël à une oppression raciale des Palestiniens, et donc ça perdure. Et donc, dès le départ, il y a une espèce d'opprobre moral, d'illégitimité qui est jetée à la face d'Israël et qui va perdurer sur l'ensemble. Et c'est, bien sûr, ça provoque un phénomène de recul, de refus, y compris de la part du camp de la paix israélien, qui ne se reconnaît pas et qui ne peut accepter une telle remise en cause. Et donc, là aussi, la contre-productivité dont nous parlions précédemment, à savoir, c'est plus démobilisateur que mobilisateur, même si, bien entendu, le camp de la paix ne renoncera pas à lutter contre l'oppression. Et ce qui se passe à Sheikh Jarrah ces jours-ci montre bien que cette mobilisation continue.
D'accord, on comprend bien votre raisonnement. La paix maintenant, Shalom Arshav en Israël, a été parmi les premières organisations après la première intifada à soutenir les accords d'Oslo. Hein, les accords d'Oslo qui ont été signés entre Yasser Arafat, le président de l'autorité, le président à l'époque du Fatah, et puis représentant du peuple palestinien, et puis Yitzhak Rabin, grande figure de la paix. Or, dans le rapport d'Amnesty International, j'ai l'impression qu'il danse sur le corps de ces accords. Hein. C'est le cas de le dire. Ça n'apparaît pas. Il n'y a pas de zone B, il n'y a pas de zone C, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de truc. Rien n'apparaît. C'est comme si...
Tout à fait. Alors, ça fait partie des éléments qui sont erronés dans ce rapport. C'est-à-dire,
gravement erroné.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différenciation entre Israël et les territoires palestiniens, ce qui est bien entendu une erreur, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour se rendre compte que la situation des Palestiniens en Israël, même si elle est loin d'être parfaite, même s'il y a des problèmes, n'a aucun rapport avec celle des Palestiniens dans les territoires occupés.
C'est ce qu'on appelle les Arabes israéliens, d'ailleurs.
Ou les Arabes israéliens ou les Palestiniens israéliens, ça c'est une question de sémantique sur laquelle on pourra revenir à une autre occasion, mais il est évident que leur situation n'a rien à voir. Mais ce qui est plus drôle, entre guillemets, c'est que Amnesty, en prenant cette position de ne pas différencier Israël des territoires occupés, s'aligne sur les positions de l'extrême droite israélienne, qui elle aussi veut à tout prix faire disparaître la ligne verte, ce que malheureusement elle a déjà très largement réussi à faire auprès de l'opinion publique et dans les livres d'histoire ou de géographie où la ligne verte a disparu et on a l'impression que Israël, c'est Israël plus les territoires occupés. Mais en tous les cas, c'est la position de l'extrême droite qui dit il n'y a pas de différence entre Bethléem et Tel Aviv ou Haïfa ou Ramallah ou Jéricho, tout ça, ça fait partie du grand Israël, d'Eret Israël Hachlema. Et donc, on voit que Amnesty International, probablement, ce n'est pas son point de vue, bien entendu, mais il s'aligne sur ses positions de l'extrême droite israélienne, alors que justement, un des efforts du camp de la paix, c'est de montrer qu'il y a une différenciation qui doit perdurer entre Israël et les territoires occupés. Sinon, c'est la remise en cause, ce dont on parlait du début, du devenir démocratique de l'État d'Israël, parce qu'il y aura une population arabe qui sera très importante, voire majoritaire, et donc la dimension État juif et démocratique ne pourra pas perdurer.
D'accord. Alors une dernière question, Ilan, parce que le temps passe. Est-ce que vous vous voyez aujourd'hui collaborer avec des gens de Amnesty International sur les questions de paix, de justice en Israël-Palestine, alors qu'ils sont absolument mis sur les mêmes positions que BDS.
Alors, ils ne sont pas tout à fait sur les mêmes positions de BDS, mais de toutes les façons, la raison pour laquelle il est important de discuter et de contester ce rapport, c'est que Amnesty International est une association, une ONG qui a un renom, qui bénéficie d'un capital de confiance, et donc on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Il y a des gens qui font partie d'Amnesty International qui, de bonne foi, partagent ou seront alimentés par ce rapport. Et donc, il est nécessaire de porter la contradiction. Amnesty International n'a pas tort sur toutes les questions, y compris sur ce qu'elle dit dans ce rapport. C'est pas, tout n'est pas jeté aux égouts, même si, effectivement, ils ont fait les choses de telle façon qu'on peut avoir ce réflexe. Et donc, bien sûr, il y a des distanciations à prendre, une condamnation à prendre de la part de la direction, et en particulier de la direction anglaise qui est à l'origine de ce rapport. Mais il n'est pas question de couper les ponts avec Amnesty, et en particulier avec ses militants qui, de bonne foi, sont alimentés, encore une fois, par des informations qui sont erronées, malveillantes et contre-productives.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission, Alain Rosenkier, et d'avoir été très clair dans vos réponses. À bientôt. Bonne semaine à tous et à toutes. C'était Paul Ouzimir, Satan Antenne, avec Chronique pour la paix.